EMCI TV vous présente Vie de foi, votre rendez-vous avec Pasteur Joël Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire.
Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, je reçois l'évangéliste Mario Mascotte. Bonjour, frère Mascotte.
Bonjour, Joël.
Gloire à Dieu. Cette semaine, nous parlons du millénium.
Oui, quel beau sujet.
Oui, absolument. J'ai hâte d'être là déjà. Gloire à Dieu. Et surtout, d'être dans la Nouvelle Jérusalem.
Voilà.
Ça, c'est l'ultime. Mm-hmm. Mais on va parler du millénium aujourd'hui. Et précisément, on va parler du quatrième temple. Donc, un quatrième temple sur l'horizon.
Oui, c'est toute une question. Le quatrième temple qui intrigue vraiment les chrétiens. Pourquoi un quatrième temple? Mm-hmm. Bon, si on fait l'histoire des temples, bien sûr, au tout début, il y a eu ce premier temple qui a été construit par Salomon. Évidemment, ce temple-là a été détruit par l'invasion babylonienne. Mm-hmm. Il y a eu une rénovation de ce temple-là, deuxième temple qui a été détruit par les Romains en l'an 70. Mm-hmm. Et il y aura un troisième temple qui sera construit. Puis on est très proche du début de cette construction-là et qui sera là durant la période des sept années de tribulation. Et là, on va parler aujourd'hui, au cours de cette émission, d'un quatrième temple qui existera tout au long du règne de 1000 ans.
Il va durer plus longtemps que les autres.
Ah oui, c'est ça, effectivement, parce que tout au long de la période du millénium, ce temple-là sera érigé et il aura été construit surnaturellement par le Seigneur Jésus-Christ, aussi aisément que Dieu a créé le monde au tout début, qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut, que le temple soit et le temple sera.
Wow.
Dans Zacharie, le chapitre 6 et le verset 12, ça nous dit carrément que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui construira ce temple-là.
Alors, juste avant d'aller très profondément dans le sujet du temple, je veux juste situer les gens à la maison qui nous suivent pour la première fois. Donc, ici, on comprend que dans l'histoire, l'enlèvement de l'Église a déjà eu lieu. Ensuite, on parle, il y a les sept années de tribulation sur la terre pendant ce temps terrible où il va y avoir des fléaux, où la colère de Dieu va être déversée, en fait, sur les rebelles. Voilà. Donc, on sait que l'épouse de Christ n'est pas destinée à la colère, mais au salut. Donc, on sait que nous sommes protégés au ciel dans la présence de Dieu. Donc, cette année de tribulation, à la toute fin, il y a la bataille d'Armageddon qui a lieu. Et puis, finalement, Jésus revient avec ses saints sur la montagne des Oliviers, des Oliviers. Et puis, finalement, à ce moment-là, il y a quelque chose de phénoménal qui se produit. Cette montagne est fendue en deux.
Oui.
Et puis, il y a une énorme vallée qui est créée à ce moment-là. Et puis là, finalement, bon, je vous laisse continuer peut-être pour vous
expliquer un petit peu où nous sommes. Oui, parce que non seulement la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, mm-hmm. et que la grande vallée, oui, sera créée, mais toutes les collines et les montagnes, comme on a lu dans des émissions précédentes, dans le psaume 127, ça nous dit bien que Jérusalem est entourée de montagnes. Mm-hmm. Bon, il y a le mont des Oliviers, le mont Scopus, le mont Sion, le mont Ophel, le mont Moria, mm-hmm. sur lequel, justement, était construit le premier et le deuxième temple. Ben, toutes ces montagnes-là et toutes ces collines-là vont reculer mm-hmm. pour faire de l'espace pour que cette grande vallée, justement, soit créée. Et au miracle, la petite colline de Sion, qui est tout petite aujourd'hui, deviendra la plus haute montagne que le monde a jamais connue. Mm-hmm. Elle va dépasser, selon Ésaïe, dans le deuxième chapitre que nous avons lu, toutes les autres montagnes qui ont existé sur cette terre. Et sur le sommet de cette nouvelle montagne de Sion, le prophète Ézéchiel a vu en vision le quatrième temple, qui est un très grand temple, beaucoup plus grand que le premier et le deuxième temple. Il a vu au sud du temple la ville de Jérusalem qui sera restaurée pour la période du millénium. Et il y a différents espaces qui seront réservés pour les prêtres lévites qui vont faire le service dans le temple. Les prêtres de la lignée de Tsadok qui sont séparés des Lévites à cause justement de leur fidélité, parce que ce sont eux qui sont restés toujours fidèles à l'Éternel et fidèles à David, à l'époque où les autres ont délaissé leur fidélité envers le roi David, et ils ont un espace réservé pour eux, les sacrificateurs de la lignée de Tsadok. Il y a des espaces pour l'agriculture, il y a des places pour la verdure, et c'est un immense plateforme de, selon les dimensions d'Ézéchiel, de 70 kilomètres de long jusqu'à 70 kilomètres de large. Alors, ça veut dire que ça prend un espace vraiment très, très grand, un espace très grand pour que cette montagne existe et que cette ville existe sur le sommet de la montagne et que le temple y soit construit. En fait, 70 kilomètres de long à partir de la vallée qui sera créée, à même la vallée du Cédron, parce que présentement, c'est la vallée du Cédron qui est juste au pied de la montagne des Oliviers. Alors, la vallée du Cédron sera agrandie énormément. Et si on calcule 70 kilomètres en longueur, ça nous conduit au-delà de Silo. Un Silo, c'est l'endroit où, on se souvient, où le tabernacle portatif du désert a été fixé de façon permanente. Et il est demeuré là 300 quelques années à Silo. Et puis, un curieux verset dans la Bible, qui est dans le livre de la Genèse, c'est chapitre 49, c'est Jean Campe qui donne une prophétie sur la tribu de Juda et qui affirme que le sceptre ne quittera pas la tribu de Juda jusqu'à ce qu'il revienne, ou dans nos versions habituelles, c'est jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Mm-hmm. Et on interprète Shiloh comme un nom donné au Seigneur Jésus-Christ, le roi qui revient. Mais apparemment, je ne suis pas un expert dans la langue hébreu ni en grec, mais apparemment, ce passage-là, dans l'hébreu original, est un passage très difficile vraiment à traduire. Et selon certains experts, on pourrait tout aussi bien le traduire de cette façon-ci, que le sceptre ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce qu'il revienne à Silo. Que le sceptre reviennent à Silo. Alors, Silo, à ce moment-là, n'est plus un nom symbolique qu'on donne au Seigneur Jésus-Christ, mais un lieu qui existe encore aujourd'hui. Et même qu'on a fait des fouilles archéologiques assez récentes et on a découvert l'emplacement réel de l'endroit où était fixé le tabernacle qui avait servi pendant 40 années dans le désert. Alors, selon les dimensions mentionnées dans le livre d'Ézéchiel, la nouvelle montagne de Sion et le quatrième temple qui sera construit surnaturellement par le Seigneur Jésus-Christ sur son sommet s'étendrait jusqu'au-delà même de Silo.
Ce qui est intéressant aussi pour nous, là, c'est qu'on comprenne que pendant cette période de 1000 ans, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est vraiment au top du gouvernement, si on veut. C'est vraiment lui qui est le roi.
Le roi de toute la
pendant
terre.
Pendant 1000 ans sur la terre. Voilà. Et là, il va avoir aussi des hommes naturels qui vont avoir été, en fait, qui sont rentrés à partir des nations qui ont été jugées dignes de faire partie du millénium, et aussi des rachetés qui habiteront à ce moment-là dans des corps glorifiés. Voilà. Donc, on va voir, en fait, la différence entre des hommes naturels et des hommes et des femmes qui ont été
glorifiés. Oui, parce que les rachetés auront des corps lumineux.
C'est ça. Donc vraiment, on voit que c'est un autre monde. Et on parle aujourd'hui du quatrième temple qui fait partie certainement de ce gouvernement ou non?
Oui, absolument. Parce que sur le sommet de cette montagne se trouve, ben, il y a beaucoup de choses qu'Ézéchiel a vues et puis qu'il nous a décrites dans son livre. Mais principalement, il y a le temple et la ville de Jérusalem qui sont comme connectés ensemble. Le prophète Ézéchiel mentionne que la ville est au sud. Du magnifique temple qui sera là durant la période du millénium.
Comme vous dites, qui va venir de façon surnaturelle.
Oui, de façon surnaturelle. Ça peut pas être autrement parce que tout de suite, il y a de l'action mentionnée dans la parole du Seigneur qui va se produire dans le temple. Alors, on peut pas prendre des années pour le construire.
Il faut que ça arrive.
Il faut qu'il existe tout de suite. Et pour Dieu, c'est pas un problème, comme nous savons. Alors, le temple est construit et sur cette grande plateforme, ce sera le complexe administratif du gouvernement de Christ. Parce que, à compter du retour du Seigneur Jésus-Christ sur la montagne des Oliviers, il devient le roi de toute la terre. Il n'est pas juste roi d'Israël, là. Il n'est pas juste roi des cieux, mais sera le roi de toute la terre. Et c'est bien mentionné spécifiquement dans le livre de Zacharie qu'à ce moment-là, il sera le roi de toute la terre. Alors, toutes les nations du monde seront soumises au nouveau gouvernement de Christ, dont le siège social sera sur le sommet, la nouvelle montagne de Sion. Alors, j'appelle ça, moi, le véritable nouvel ordre mondial, selon Jésus-Christ. Bon, on sait qu'à notre époque, et depuis déjà de plusieurs années, nos politiciens parlent d'un nouvel ordre mondial. C'est même imprimé sur les dollars américains, nouvel ordre mondial. C'était promu beaucoup par les anciens présidents Bush. Mais ça, ce sera le véritable nouvel ordre mondial, selon Jésus-Christ.
Et il faut être l'ordre béni.
Parce qu'il y aura une loi universelle. Comme nous avons lu dans l'émission précédente, le prophète Ésaïe a annoncé d'avance, a prophétisé que la loi sortira d'où? De la montagne de Sion. Et que toutes les nations qui seront dans leur corps physique devront suivre la loi qui sortira de Sion. Et bien sûr, il y a des centaines et des centaines de références dans l'Ancien Testament concernant la vie, les coutumes qui seront pratiquées, le style de vie des gens durant le millénium. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de détails. Par exemple, nous apprenons qu'il y aura deux fêtes du calendrier de Dieu qui seront encore célébrées durant le millénium, la fête de la Pâque et la fête des tabernacles. Et à chacune de ces deux fêtes-là, toutes les nations du monde devront se rendre à Jérusalem, à la montagne de Sion. Et on parlait dans l'émission précédente de science-fiction, de choses vraiment comme invraisemblables, mais vraiment très réelles aussi. Ça nous dit, écoutez bien, ça c'est vraiment très particulier, lorsque ces nations se rendront à la montagne de Sion pour célébrer les deux fêtes, particulièrement la fête des tabernacles, lorsqu'ils arriveront tout près de la montagne de Sion, le séjour des morts sera visible.
Ça, c'est intéressant.
Et ils verront le cadavre de ceux qui sont là dans ce séjour des morts. Et la Bible ajoute, et c'est Ésaïe qui prophétise, ce sera un sujet d'effroi pour ces nations-là et une grande motivation pour servir fidèlement le Seigneur durant toute la période du millénium.
On va y arriver sûrement dans la série, mais on sait à la toute fin du millénium, Satan va être relâché pour une courte saison.
Oui.
Et on se pose la question, comment est-ce que c'est possible qu'une personne naturelle, par exemple, qui a été élevée pendant le millénium, admettons, il y a des personnes naturelles, un couple naturel, qui a des enfants pendant le millénium, bon, des enfants naturels, qui vont pouvoir choisir pour eux-mêmes, est-ce que je vais continuer à servir le roi des rois, Jésus-Christ, ou est-ce que je vais être séduit par Satan? Et on se dit, avec toutes ces choses-là, toute cette évidence, et même la paix qui va régner pendant le millénium, on se dirait, mais comment est-ce qu'une personne pourrait être séduite, en fait? C'est quand même intéressant.
Oui. Bien, premièrement, c'est que toutes ces nations-là, parce qu'on parle de 1000 ans, alors c'est plusieurs générations d'enfants qui vont naître durant le règne de 1000 ans, qui pour eux, l'histoire de la rédemption, ils l'ont pas vécu, ils ne l'ont pas connu personnellement, mais c'est comme une histoire qui leur a été racontée. Alors, il faut, d'une part, que Dieu soit juste envers nous et qu'il donne l'opportunité à ces gens-là de faire un choix comme nous, présentement, nous avons fait un choix. Personne n'est obligé d'être sauvé.
C'est ça.
Dieu n'exige pas le salut de force. Mais nous avons choisi librement d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Eux, ben, ils devront faire un choix également. Alors, Dieu va être juste envers les deux parties, ce groupe-là et puis nous aujourd'hui. Deuxièmement, la question se pose justement, comment se fait-il qu'après avoir vécu pendant 1000 ans de paix, de bénédiction, et on verra dans les futures émissions comment ça va être glorieux vraiment la vie durant le millénium, comment ces nations-là ne peuvent-ils pas choisir Jésus et rester avec le roi de toute la terre? Ben, c'est que la séduction, sans doute, va être très forte. Et Satan, autrefois qui était Lucifer, a ce pouvoir-là de séduire. Et il est capable de tellement bien séduire qu'il a réussi, écoutez, il a réussi à séduire un tiers de la création angélique.
Mm-hmm.
Ah, c'est pas peu dire, là.
C'est ça.
Ces anges-là vivaient avec Dieu, ont connu et connaissaient la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la félicité du ciel, et ils ont délibérément choisi de se rebeller avec Lucifer.
Mm-hmm.
Alors, la Bible ne nous explique pas, ne nous donne pas les détails de la séduction qui leur a été proposée, mais ça devait être quelque chose d'extraordinaire mm-hmm. pour être capable de séduire un tiers de la création angélique. Mm-hmm. Alors, j'imagine que cette prochaine séduction, cette prochaine tentation que Satan fera parce qu'il sera relâché pour un peu de temps, va être extraordinaire aussi.
Évidemment, oui.
Pour séduire, parce que la majorité des gens vont choisir le camp de l'ennemi.
Mm-hmm. Concernant le quatrième temple, on se dit, OK, mais pourquoi on a besoin d'avoir ce quatrième temple puisque l'œuvre de la croix, c'est vraiment le sacrifice
oui.
parfait, là. Est-ce qu'il va y avoir des sacrifices pendant le millénium?
Ça, c'est la question clé et la question la plus difficile à répondre, à comprendre pourquoi un quatrième temple, pourquoi des sacrifices, pourquoi est-ce qu'on revient à des fêtes comme la Pâque et puis la fête des tabernacles. Bien, premièrement, le temple, le quatrième temple est vraiment très différent des deux premiers temples. Celui-ci aura trois portes, une au nord, une au sud et la principale à l'est. Mm-hmm. Comme la porte dorée présente oui. donne accès à l'esplanade du temple sur laquelle le temple, le premier et le deuxième, avait été construit. Et cette porte-là, c'est la porte par laquelle le Seigneur Jésus-Christ reviendra et entrera dans son temple. Lorsqu'il va poser ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers, il y a tous ces changements-là dont nous avons parlé, et il y a la création surnaturelle de ce temple-là, et le Seigneur Jésus-Christ fera son entrée par la porte de l'Est. Alors, souvent, les prédicateurs vont confondre la porte dorée actuelle avec la nouvelle porte de l'Est du quatrième temple.
Mm-hmm.
Et on a entendu des prédicateurs nous dire que, bon, présentement, la porte dorée, elle est fermée, elle est scellée, et elle ne s'ouvrira qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ qui va passer par cette porte dorée. Impossible, parce que il y aura ce grand tremblement de terre et tout ce qui existe, de toute façon, sera détruit. Alors, cette porte-là sera détruite. Non, nous parlons de la nouvelle porte du nouveau temple, le quatrième temple, mm-hmm. la porte de l'Est, et Jésus-Christ fera son entrée par cette porte-là. Cette porte de l'Est restera, oui, fermée, sauf à des occasions spéciales. Parce que, justement, le Seigneur Jésus-Christ est entré là avec sa gloire, la gloire Shekinah, mm-hmm. qui est entrée dans ce quatrième et nouveau temple. Et de toute façon, Ézéchiel nous explique que ceux parmi les nations qui viendront pour différentes raisons au temple sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion pourront entrer par le nord, la porte située au nord. S'ils entrent par la porte du nord, ils ne peuvent plus ressortir par la porte du nord, devront sortir par la porte du sud. Ceux qui entreront par la porte du sud devront sortir par la porte du nord. Et la porte de l'est restera fermée, sauf le sabbat. La journée du sabbat, elle sera ouverte. Et pour certaines occasions, et pour le prince. Mais les nations ne pourront pas passer par la porte de l'Est, sauf certaines occasions, comme je
vous
viens
dites le prince.
De mentionner. Et le prince, lui, aura accès.
Mais le prince, c'est qui?
Ça, c'est une question que je réserve un petit peu plus tard, parce que c'est assez complexe. Parfait. Maintenant, écoute bien, la gloire revient avec le Seigneur Jésus-Christ.
Mm-hmm.
La gloire avait quitté les anciens temples. Mm-hmm. Et dans le même livre du prophète Ézéchiel, à compter du 8e chapitre, on commence à voir la description qui nous est donnée par le prophète de la gloire qui va quitter le temple.
Mmh.
Et elle va quitter à regret, parce qu'elle quitte lentement. Elle ne part pas immédiatement. Tchou! Non, elle quitte d'abord le lieu très saint du temple. Lentement, elle traverse le parvis extérieur du temple.
Mm-hmm.
Lentement, elle va traverser la porte dorée, qui à l'époque n'était pas bloquée. Elle n'était bloquée que par les Turcs, l'Empire ottoman.
Mm-hmm.
Et la gloire va s'en aller sur le sommet de la montagne des Oliviers. Tout ça, c'est écrit dans le livre du prophète Ézéchiel à partir du 8e chapitre. Et du sommet de la montagne des Oliviers, elle retourne au ciel. Mais elle va revenir de la même façon ou par le même chemin. Elle revient par le Seigneur Jésus-Christ sur la même montagne des Oliviers. Et la gloire va revenir dans le quatrième temple en entrant par la porte de l'Est. Ce qui va être extraordinaire, c'est que non seulement cette gloire-là va pénétrer par la porte de l'Est, elle va illuminer et remplir le quatrième temple, va illuminer la ville de Jérusalem. Et croyez-le ou non, Ésaïe le prophète, dans le quatrième chapitre, nous explique que cette nuée de gloire va rester en permanence sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion. Durant le jour, c'est une nuée de la gloire Shekinah qui va éclairer la montagne et tous les alentours. Et la nuit, c'est une flamme de feu scintillante ou flamboyante qui va exister au-dessus de la nouvelle montagne de Sion. Et la gloire Shekinah sera tellement grande dans ce temple et sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion, qu'elle va se répandre partout sur la planète à des degrés différents. Alors, c'est comme la gloire de Dieu qui est comme indescriptible, qu'on peut même pas commencer à comprendre, sera visible tous les habitants de la planète et tous les gens qui vivront durant le règne de 1000 ans verront ce spectacle-là continuellement, jour et nuit. Wow! Alors, quand le prophète Ézéchiel était à Babylone, parce qu'on parle à ce moment ici de la captivité du peuple juif à Babylone, des deux tribus qui n'avaient pas été déportées en Assyrie, c'est-à-dire Juda et Benjamin, ils ont été déportés, comme nous savons, à Babylone lors de l'invasion babylonienne. Et puis, Dieu s'est servi de ces deux hommes-là, Daniel et Ézéchiel, durant les 70 années qu'ils ont été en captivité à Babylone, pour prophétiser concernant notre époque et prophétiser concernant le futur, le monde à venir. Et alors qu'Ézéchiel a été saisi par l'Esprit du Seigneur et il a été transporté sur cette nouvelle montagne de Sion, il va nous faire des descriptions extraordinaire du temple. On n'a pas le temps, dans le cadre d'une seule émission, de donner tous les détails et toutes les dimensions, parce que c'est très long et c'est très précis. Mais la raison principale pour laquelle il y aura ce temple-là, c'est que Israël n'a jamais servi Dieu parfaitement comme Dieu aurait aimé être servi. Et il va leur donner comme une leçon de vie durant 1000 ans. Israël va vraiment servir Dieu comme il a toujours voulu être servi. Et écoutez bien ceci. On va lire certains versets si nous avons le temps ou dans le cadre de cette émission aujourd'hui. Comment c'était rendu terrible, vraiment, les choses démoniaques qu'Israël faisait dans le temple pour provoquer la jalousie de Dieu. Des représentations de reptiles, de faux dieux dans le temple lui-même. Et c'est comme si Dieu dit « j'en ai assez » et c'est à ce moment-là que la gloire, comme j'ai expliqué il y a quelques instants, a commencé comme un regret à quitter le temple. Mais ce qui est vraiment, vraiment très intéressant, est vraiment très stimulant aussi pour nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que 2500 ans passés, quand l'Éternel a donné cette vision du quatrième temple à Ézéchiel, alors qu'il était à Babylone en captivité, voici ce qu'il lui a dit. « Toi, ça c'est dans Ézéchiel chapitre 43, « Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël et qu'il en mesure le plan. » Autrement dit, qu'il fasse un plan de ce temple-là. Maintenant, écoutez bien. Depuis 2500 ans où cette vision a été donnée à Ézéchiel et le commandement qui a été donné à Ézéchiel de montrer ce plan-là et le détail de la vision à Israël pour qu'Israël fasse le plan pour la construction de ce temple-là, ça ne s'est jamais produit. Israël, depuis 2500 ans, ne s'est jamais arrêté pour dire « Wow, c'est une vision, Il y a un temple extraordinaire que Dieu veut avoir et nous allons faire le plan, nous allons l'écrire, ce plan-là. Ça ne s'est jamais produit, sauf maintenant.
Mm-hmm.
Et c'est tellement extraordinaire, vous pouvez visiter le site de l'Institut du Temple sur Internet, mm-hmm. ou vous pouvez simplement cliquer sur Internet « Plan du futur temple ». Et on va vous montrer les plans qui ont été faits récemment par les gens de l'Institut du Temple, par le Sanhédrin. Vous savez que le Sanhédrin a été reconstitué. Ils ont même imprimé ce demi-shekel avec le profil de Cyrus et de M. Trump. Et au dos de cette pièce de monnaie, vous avez le quatrième temple, celui dont nous parlons, qui est sur l'autre face du demi-shekel qui est en circulation. J'en ai un à mon bureau. Et vous pouvez voir le quatrième temple, tel que décrit par Ézéchiel, sur une des faces de cette pièce de monnaie, et sur la première face, le profil de Cyrus, mm-hmm. parce qu'on identifie le président Trump avec Cyrus, parce que Cyrus avait permis la construction ou la rénovation du temple au retour de Babylone. Et Monsieur le président Trump qui facilite la construction, là, bientôt, de ce troisième temple. Alors, pour la première fois, écoutez, là, c'est fascinant, depuis 2500 ans, Israël s'est jamais préoccupé de ce commandement-là. Mmh. Mais maintenant, c'est fait, à notre époque, dans notre génération. Et pour les sceptiques, vous n'avez qu'à cliquer sur Internet et vous avez les plans en détail. Et si vous avez la vidéo, parce que vous pouvez avoir même la vidéo qui a été faite par les gens de l'Institut du Temple, par le Sanhédrin en Israël. Et c'est magnifique. Puis le fond de la vidéo, c'est la nouvelle génération des jeunes, des adolescents, qui voient le temple construit et qui tentent de convaincre l'ancienne génération qui ont prié pour ça, mais ne croient pas que le temple sera construit.
Et pour les sacrifices qui vont avoir lieu aussi pendant le millénium dans ce temple, c'est pas pour les racheter, parce que nous sommes déjà sauvés.
Oui, je pense qu'on va regarder ça pour la prochaine émission, parce que je peux pas l'expliquer en 15 secondes.
Donc, c'est
parce que je veux que les gens comprennent bien, parce que moi-même, ça m'a pris du temps et des recherches pour comprendre ce que je veux partager avec vous.
Donc, demain, on va parler du gouvernement, en fait, le gouvernement et la vie dans le millénium, donc l'organigramme du gouvernement qui va exister dans ce monde. Mais c'est vraiment intéressant. On comprend, si un quatrième temple, juste résumé, c'est afin de permettre à Israël d'accomplir les ordonnances. C'est pas parce que l'œuvre de la croix n'était pas suffisante, mais non, nous sommes vraiment sauvés.
Oui.
Mais il y a un autre but et on va sûrement poursuivre aussi dans l'émission de demain parce que, comme vous dites, c'est pas quelque chose qu'on découvre dans 15 secondes.
Voilà.
Mais on se donne le temps pour approfondir les Écritures
en fait.
Donc, merci beaucoup, Frère Mascotte, d'avoir été là. Et merci à vous également. Vous pouvez nous écrire dès aujourd'hui à videfoi@emcitv.com et vous pouvez nous partager vos témoignages et nous envoyer également vos questions. Donc, merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Vie de foi sur emcitv.com.